Merci de votre fidélité à Radio Capine, la fréquence de la paix. Bienvenue dans cette deuxième partie de votre magazine de la vie au quotidien au Capis Service. Quelles sont les réformes à apporter dans la gouvernance du secteur de la pêche et de l'aquaculture en RDC? Eh bien, on en parle dans cette deuxième partie du magazine au Capis Service avec Monsieur Gabriel Kombozi, directeur de la direction de la pêche et de l'aquaculture au ministère de la pêche et l'élevage. Il est avec nous dans ce studio. Donc, Monsieur Gabriel Kombozi, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle, si vous êtes intéressé, vous voulez intervenir, il faut le faire par un message vocal au 09-706-9941. Dieudonné Nyangasa est toujours là à la mise en note. Tima pour réaliser et coordonner ces magazines présentés par Marcel Ngombala sous la supervision de Jean-Marc Matouaki.
Chronique électorale, espace dédié à l'éducation civique et électorale sur Radio Capi. Pour toutes vos questions et préoccupations sur le processus électoral, les experts répondent à vos préoccupations chaque vendredi de 11h à 12h dans Capi Service. Pour participer à cette émission, appelez au 081 89 063 94. Écrivez-nous à service@radiocapi.net. Postez vos questions et préoccupations sur la page Facebook d'Okapi Service.
La RDC a une potentialité halieutique énorme car son réseau hydrographique constitué du fleuve Congo, du lac et des rivières peut servir à une exploitation durable et pérenne de poissons, de capture et d'élevage à grande échelle selon les experts en écologie du milieu aquatique. Cependant, les secteurs de la pêche de capture et de la pisciculture ne sont pas encore exploités comme il se doit afin d'assurer un bon approvisionnement en poissons et autres fruits de mer. Conséquence, ce sont des poissons importés généralement de la Namibie qui envahissent les marchés de Kinshasa et des autres grandes villes de la RDC. Quelles sont donc les réformes apportées dans la gouvernance de la pêche de capture et de l'aquaculture en RDC? Je le disais, nous avons avec nous Monsieur Gabriel Kombozi, directeur de la direction de la pêche et de l'aquaculture au ministère de la pêche et élevage pour en parler. Je rappelle le numéro, si vous voulez intervenir, faites un message vocal au 099-716-9941. Monsieur Gabriel Kombozi, bonjour, ravi de vous retrouver, ça fait tellement longtemps. Et merci de vous être déplacé dans nos studios pour aborder ces questions sur les réformes apportées dans la gouvernance du secteur de la pêche et de l'aquaculture en RDC. On le sait, on entend, les gens n'arrêtent pas de le dire. Et comment nous avons tout ce que comme nous avons comme fleuve, rivière, mais on n'arrête pas d'importer du poisson. Et des fois, lorsqu'on ne trouve pas du poisson, on va les chercher dans d'autres pays, même les pays africains, alors qu'on pouvait nous-mêmes aussi pêcher du bon poisson ici, dans tout ce que nous avons comme fleuve, rivière. Alors, qu'est-ce que vous en pensez?
Bien, merci pour la question. J'aimerais peut-être apporter une petite modification.
Oui, allez-y.
Une clarification dans la présentation. Vous savez, le ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage a été plusieurs fois scindé. Hein?
Oui.
On se regroupe pendant le ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage, Développement Rural, etc. Mais aujourd'hui, nous sommes ministère de Pêche et Élevage. Et avec lui, n'est-ce pas, il y a beaucoup de choses qui se sont modifiées aussi au niveau de l'administration.
Oui.
Donc, je m'occupe exclusivement pour le moment de l'aquaculture, mais rien n'empêche qu'on puisse parler de la pêche en général, parce que le poisson, si on le met devant vous, vous ne saurez pas, il vient de la pêche ou de l'aquaculture.
Ah, justement, si en tant qu'on passe, voilà. Par cette, merci d'abord du correctif. Alors, aidez-nous à mieux comprendre la différence entre l'aquaculture et la pêche.
La pêche, c'est une activité aléatoire.
Oui.
Vous comprenez? Vous allez dans le fleuve, dans les lacs, avec vos matériels, vos engins, vous ne savez pas exactement ce qui vous réserve le résultat de la pêche de la nuit, n'est-ce pas? Donc, c'est la pêche de capture, c'est la capture des poissons. Tandis que l'aquaculture, qui est d'abord une générique, hein, qui parle de la pisciculture, pour ce qui est des poissons, et des autres êtres humains, des êtres aquatiques qui sont dans l'eau, hein, y compris même les janchettes d'eau. Il y a les tortues, les crevettes et tout ça. Alors, l'élevage ou la culture de tous ces êtres-là qui vivent dans l'eau, n'est-ce pas, ça s'appelle l'aquaculture.
Ah, d'accord, là, si je comprends, j'espère que j'ai bien compris, dont la pisciculture est comprise dans l'aquaculture.
Voilà, c'est
sous-ensemble. J'ai bien compris,
c'est super. C'est sous-ensemble de l'aquaculture.
Voilà. Ah, d'accord. Alors, on l'a dit, s'il faut parler au jeu de réforme qu'il faut apporter dans la gouvernance du secteur de la pêche et de l'aquaculture en RDC, comment faire en sorte que on arrête d'importer le poisson?
Bon, je vous donne une petite réflexion.
Oui.
Vous allez dans une fête, n'est-ce pas? Vous trouvez une table garnie.
Oui.
De plusieurs mets, n'est-ce pas? Vous avez des couleurs différentes. C'est ça un peu l'image que je peux donner aux richesses de la RDC. Vous avez les mines, les bois, les ceci, etc. Mais la pêche aussi, sur cette table-là. Mais les donateurs, disons, les décideurs, quand ils arrivent pour pouvoir prendre les priorités, très souvent, ils ne voient pas la pêche comme une activité, n'est-ce pas, génératrice de recettes. Ils vont vers les mines, ils vont vers le diamant, l'or et le cuivre, ils vont vers d'autres activités, d'autres potentialités, mais la pêche et l'aquaculture, surtout l'aquaculture, est laissée pour compte. Voyez. Alors si aujourd'hui, la question que vous me posez de savoir, pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas nous-mêmes nous suffire, n'est-ce pas, et que nous sommes allés chercher du poisson ailleurs? C'est tout simplement parce que jusque-là, l'autorité, les décideurs, n'ont pas encore compris que la pêche aussi peut lui amener des devises dans ces pays-ci. Et je salue en tout cas les efforts que est en train de faire l'actuel ministre de pêche et élevage, parce qu'il est en train de ressortir la pêche et l'aquaculture de l'anonymat, qui a été toujours là pendant plusieurs années.
Donc, des efforts, par exemple, qu'est-ce qui a été fait avec le nouveau ministre et qui n'a pas été fait avec ceux qui l'ont précédé, pour qu'on sache déjà qu'il y a des efforts. Parce que les gens, non, c'est pour toutes ces questions, ils n'arrivent pas à comprendre. Mais comment? Moi, je me rappelle, quelqu'un me disait, non, si simplement on n'arrive pas vraiment à développer ces secteurs, parce qu'il y a des gens, notamment de commerçants, qui se retrouvent dans le fait qu'on importe des poissons de l'extérieur, ils s'y retrouvent. Alors si aujourd'hui on essaie de développer les secteurs de la pêche, il y a ceux qui vont plus se retrouver. Et ça peut être une raison, ça.
Vous m'avez présenté comme directeur, n'est-ce pas, au ministère de pêche et élevage.
Oui, tout à fait.
Je vais vous donner ce que je vais avancer ici, ce sont des données officielles.
Oui.
Et par moment, je vais prendre position en tant qu'expert, en tant que directeur, en tant que médecin vétérinaire formé pour ce qui est de l'aquaculture.
Oui.
Vous comprenez? Alors, vous m'avez posé la question de savoir qu'est-ce que le ministre actuel a fait aujourd'hui que les autres n'ont pas fait. Vous voyez? Détruire une maison, on peut la faire, on peut la détruire en 30 minutes,
oui,
en une heure. Mais la reconstruire, en tout cas, ça prendra beaucoup de temps. Vous comprenez?
Oui.
Depuis la cession de notre pays à l'indépendance, la pêche n'a plus jamais été régularisée, réglementée, je voulais dire. C'est-à-dire fermeture et ouverture de pêche. Et ça, c'était une action qui avait son pesant d'or. C'est-à-dire, quand on fermait la pêche, on savait qu'à ce moment-là, c'est la période de reproduction et de multiplication des poissons. Et quand on rouvre, c'est-à-dire on donne l'occasion aux pêcheurs de pêcher avec des mailles autorisées, c'est-à-dire les poissons qui ont grandi, qu'on a estimé qu'on peut aller à la consommation avec, et on laisse les autres le pouvoir de se multiplier et de grandir aussi. Alors, l'action que le ministre actuel a prise, celle de fermer, ne fût-ce que sur le lac Tanganyika, c'est un signal fort, déjà, que pendant plus de 40 ans, 60 ans aujourd'hui, plus jamais personne ne l'a fait. C'est un acte de courage, c'est un acte vraiment de bravoure.
Oui.
Je sais que il y a des sons de cloche de partout, qu'on critique la chose, mais l'abcès là, nous les médecins, quand on a un abcès à traiter, vous pouvez badigeonner toutes sortes de produits, mais le traitement final, c'est la ponction. Vous voyez, c'est ce que le ministre a fait par cet acte-là. Qu'on les critique, tant mieux, mais au moins l'acte est posé.
En fait, il faut le préciser, parce que ça, j'ai oublié de le dire, vous êtes bien aussi docteur Gabriel Kombos, vous êtes médecin, c'est bien cela, non?
Oui, je suis médecin vétérinaire.
Vétérinaire, tout à fait, il faut bien préciser ça,
ouais. J'ai fait 27 ans au ministère de l'Agriculture, Pêche, dans toutes ces différentes
Exactement, ouais.
Et j'ai fait 27 ans au ministère de l'Agriculture et 15 ans comme directeur en charge de production halieutique. Vous comprenez, halieutique, c'est à la pêche et l'aquaculture en même temps.
Exactement.
Voilà. Alors, je disais que quand la pêche, n'est-ce pas, qui a été non réglementée pendant plusieurs années, et qu'aujourd'hui, on arrive à avoir des actes courageux pour pouvoir réguler finalement ce qui a été des bêtises que nous avons produites pendant des années, parce qu'aujourd'hui, je vous l'ai dit, nous pêchons du 1er janvier au 31 décembre sans interruption et avec des méthodes prohibées, avec des engins de matériel prohibés. Et vous comprenez? Et quand le ministre actuel commence à mettre de l'ordre pour essayer de réguler ça, moi j'appelle ça un acte de bravoure.
Et il y a également des mesures qui ont suivi pour faire en sorte que cette réglementation soit suivie, soit respectée.
Bien sûr. Ah,
ça c'est très important.
Il y a une
oui.
loi qui est en souffrance malheureusement au niveau du Parlement, qui doit certainement être abrogé et nous permettre de vulgariser tout ce qui est écrit dans cette loi-là comme article, comme disposition pratique à faire. Vous comprenez? Deuxième acte de bravoure. Vous avez suivi avec moi que nous sommes en train de commander des bateaux de pêche, n'est-ce pas? Et qui sont déjà sous fabrication. Et c'est un acte aussi pour pouvoir essayer de pallier à ces déficits-là que nous avons toujours observé dans les importations des poissons d'ailleurs.
Voilà, ça c'est bien dit. Donc c'est déjà des efforts qui sont entrepris dans un secteur, avoir des bateaux de pêche. Ça, il faut dire que ça sera quelque chose qui va apporter un plus pour ce qui est de la pêche en RDC. Alors s'il faut amener des réformes pour la gouvernance du secteur de la pêche et de l'aquaculture en RDC, quelles peuvent bien être ces réformes?
Il faut essayer de donner l'occasion au ministre actuel de pêche et élevage à améliorer son idée. J'ai parlé de la réglementation de la pêche.
Oui.
J'ai parlé des bateaux qui conduisent, n'est-ce pas, à l'implantation de la pêche industrielle. Ok. Alors, il faut aussi maintenant, vous avez appris il y a deux jours, je crois, qu'un autre acte aussi de bravoure, là où les gens, nous-mêmes, nous avons cogité pendant plusieurs années, nous avons créé, nous avons fait des projets, voilà là, par exemple celui-là, des projets de création de l'Office national des pêches, ça ne date pas d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais au moins, lui, il est arrivé à concrétiser, à matérialiser cette idée-là que nous avons toujours développée avec plusieurs ministres qui sont passés là-bas, qui n'ont peut-être pas vu que c'était important, mais il y a deux ou trois jours, vous avez suivi qu'on a créé un office national de pêche et d'aquaculture. C'est déjà un grand pas dans la réforme. Voyez? Alors, la réforme, moi, je venais plutôt pour la pêche que nous parlions de l'actualisation, pour la redynamisation.
La redynamisation, oui.
Voilà. Et la réforme, pour ce qui est de l'aquaculture, je parlais de l'implantation.
De l'implantation.
Parce qu'il faut, quand on réforme, c'est-à-dire, il existait d'abord quelque chose avant, et qu'on puisse maintenant améliorer. Maintenant, l'aquaculture, sincèrement, c'était le mal-aimé de toutes les activités de développement de la République démocratique du Congo.
Alors, parlons de... Parce que vous êtes plus dans l'aquaculture avant de parler de la redynamisation de la pêche. À part de l'implantation de l'aquaculture,
oui.
Est-ce qu'il y a quels sont les avantages de l'aquaculture?
Ok. Bon, je disais tantôt, quelque part, là, l'introduction, que la pêche, c'était une activité aléatoire.
Aléatoire, oui.
N'est-ce pas? C'est la capture. On ne sait pas exactement ce que ça va
donner. On peut faire une bonne moisson, on attrape du poisson,
voilà.
Comme aussi on peut rentrer sans avoir.
Tout
on s'est dit
que
la journée n'était pas une très bonne journée aujourd'hui, on attend de voir ce qui va se passer demain. Donc c'est aléatoire.
Voilà.
Mais, contrairement à l'aquaculture,
c'est la pêche responsable.
Oui.
Je vous rappelle que l'hydrographie de la RDC, quand vous voyez ça, c'est comme si c'était les nerfs qui étaient, disons, dans l'anatomie de l'être humain,
oui.
Vous voyez les nerfs qui vont partout,
oui.
Jusqu'au petit doigt. Et c'est ça, quand vous voyez la carte hydrographique de la RDC, il n'y a pas un seul coin où il n'y a pas la rivière, il n'y a pas le lac, donc tout est innervé. Et pour faire de l'aquaculture, il faut avoir cette eau-là, l'eau douce. Et nous en avons partout. Donc, c'est déjà un atout. Maintenant, vous me posez la question de savoir l'importance de l'aquaculture là. Je parle, je vais restreindre de l'aquaculture, je prends la pisciculture.
Juste les poissons.
Les poissons.
Oui.
Parce que c'est ça qui nous importe le plus.
Oui. Oui.
Dans cette petite salle, je crois que c'est de 4 mètres carrés ou de 6 mètres carrés, si nous pouvons immerger ici une cage flottante, n'est-ce pas, de 4 mètres carrés de superficie et de 6 mètres de profondeur, ça vous fera peut-être 24 mètres cubes, quelque chose comme ça. Si nous mettons du poisson ici, mettons 2000 alevins, des petits poissons, nous les mettons ici et que nous nous nourrissons régulièrement avec de l'aliment concentré, au bout de 6 mois, 9 mois, nous pouvons tirer de ces petits coins ici une tonne et demie de poissons. Et si nous en faisons 100 d'affilée, combien de tonnes nous pouvons reproduire dans une année, dans une serre ferme? Vous comprenez? C'est-à-dire que l'aquaculture ou la pisciculture elle-même, c'est une pêche responsable.
Et là maintenant, c'est comment ça doit se passer concrètement? C'est l'État congolais qui doit encourager les gens à se lancer dans le domaine de la pisciculture. Plutôt, c'est l'État congolais lui-même de mettre des mécanismes qui peuvent faire en sorte que les gens puissent s'intéresser à l'aquaculture. Comment concrètement ça peut se passer pour que les gens s'intéressent à cette espèce d'élevage de poissons, par exemple?
Tout à l'heure, vous m'avez dit que nous sommes là pour chercher comment... les réformes.
Exactement.
Je vous ai dit que dans la pisciculture, j'aimerais plutôt parler de l'implantation. C'est-à-dire l'État congolais, à l'heure actuelle, comme nous avons un office national de pêche et d'aquaculture.
Exactement.
Cet office-là doit commencer à faire d'abord des études de lieu, les états de lieu. Connaître où peut faire quoi. Parce que dans l'aquaculture, la pisciculture elle-même, nous pouvons faire trois orientations. N'est-ce pas? La pisciculture en terre battue, c'est ce que nous faisons traditionnellement aujourd'hui.
La pisciculture en terre battue, c'est-à-dire?
C'est-à-dire des étangs.
Ah, des étangs, oui.
Dans
oui.
les vallées, dans les rivières, autour des rivières. Et puis, la pisciculture en hors-sol, c'est-à-dire en dehors du sol, n'est-ce pas? Vous avez des tentes, par exemple, qui peuvent être construites en béton ou des tanks en plastique que nous pouvons aligner et avec le système intégré, circuit. Nous mettons nos poissons dans différents tanks là-bas, même comme dans cette enceinte de la radio ici au Capi, que j'ai vu une grande parcelle. On peut aligner des centaines de tanks de 5 à 8 mètres cubes et on met des poissons dedans. On vient nourrir régulièrement dans un système intégré de l'eau qui entre pour donner de l'oxygène aux poissons. Vous voyez? Avec ça, nous pouvons produire aussi des tonnes de poissons. Et la troisième orientation, c'est que j'avais dit, les cages flottantes qu'on veut aller peut-être mettre dans les lacs, dans les fleuves, dans les profondeurs que nous avons. Donc, les services, l'Office national de pêche et d'aquaculture, qui vient d'être, mis en place, doit savoir connaître et savoir où il peut faire quoi dans toutes ces trois orientations. Deuxièmement, après avoir fait les études de lieu, on doit construire les infrastructures connexes à cette production-là. N'est-ce pas? Parce que pour produire des poissons d'élevage, il faut avoir d'abord ces poissons-là et il faut avoir aussi l'aliment pour nourrir ces poissons-là.
Oui.
D'où la nécessité de la construction des écloseries, c'est-à-dire là où on va reproduire les poissons, n'est-ce pas? À l'échelle industrielle, et la provenderie. Là, on va construire, ils ont composé l'aliment, n'est-ce pas, pour nourrir ces poissons-là. On a les deux infrastructures. Maintenant, il faut aller vers les opérateurs. Aussitôt que les deux infrastructures sont mises en place, vous verrez que les trois types d'opérateurs vont se présenter. Ceux qui vont faire la pisciculture en terre battue, ils viendront pour qu'ils soient ravitaillés en alevin et en aliments de poissons. Et ceux qui feront aussi la même chose pour ce qui est de la pisciculture hors sol, ils viendront plutôt les faire la même chose. Et là, je vais peut-être épingler quelque chose. Dans nos multiples, stages ou de formations à l'extérieur, un pays, je ne cite pas le nom, moins natif de matériel, de capacité de production de poissons, comme nous, a tout simplement mis en place les deux structures-là, la provenderie et l'écloserie. Alors, vous voyez les mamans, à peine qu'elles savent écrire son nom. Les mamans qui viennent là-bas, comme celles qui
viennent. La provenderie, c'est.
Non, la provenderie, c'est l'usine de fabrication d'aliments pour.
Parce qu'il faut nourrir ces poissons-là, oui.
Voilà. Alors, je disais, dans un pays que j'ai visité,
oui.
Les deux structures-là, dans une coopérative, qu'est-ce qu'elles font? Et les mamans viennent, comme celles qui, de chez nous ici, qui vont dans une boulangerie, chercher du pain le matin, vendre le soir et remettre l'argent le lendemain, n'est-ce pas? Alors là, les mamans vont dans les deux structures. Ils prennent l'aliment, ils prennent le poisson, ils viennent dans leur propre parcelle. Ils mettent 4 ou 5 bacs en plastique ou en béton et ils nourrissent le poisson comme ça, sous le contrôle maintenant des techniciens, n'est-ce pas, de l'État, qui viennent contrôler comment ça se passe. Est-ce qu'il y a de l'oxygène? Est-ce qu'il y a la saturation? Est-ce qu'il y a des anomalies? Et à la fin du cycle, 6 mois après, les mêmes mamans produisent des tonnes de poissons en famille. N'est-ce pas? Et ils reviennent maintenant à la structure, la coopérative, pour verser. Dans la coopérative, pardon, ramasse toute la production, n'est-ce pas? Elle s'en occupe pour la commercialisation. Et les mamans se retrouvent dans leur compte l'argent après avoir retiré ce qu'ils ont pris comme crédit, n'est-ce pas? Météage, crédit aliments et crédit poissons. Voilà. Il y a beaucoup des choses que nous devons en tout cas mettre sur pied pour pouvoir bannir définitivement, ok, l'importation de poissons ici. Ça ne vaut pas la peine, ça ne nous honore pas.
Vous voyez? Et quand vous parlez de justement de l'aquaculture, là ça me revient à l'esprit un célèbre professeur qui fait souvent des émissions avec nous sur l'aquaculture, qui avait même qui s'est lancé dans ces domaines, ça fait je crois des années. Est-ce que avec cet office national de pêche et d'aquaculture qui vient d'être mis en place, que puisse-on parler de l'implantation, est-ce qu'il n'y a pas moyen de voir dans quelle mesure répertorier d'abord tous ceux qui sont dans ces domaines et voir comment on peut les accompagner au fur et à mesure que l'office va trouver des moyens pour vraiment s'implanter à travers le pays.
Oui. Moi, je n'ai pas fini d'étaler.
Allez-y. Parce que quand vous avez commencé à parler de ça, l'idée m'est venue en esprit.
Je parlais ici des études de l'état des lieux.
Oui.
J'ai ajouté qu'il faut maintenant les structures d'appui à cette activité-là. Maintenant, comme vous le dites, il faut recenser les pisciculteurs.
Exactement, oui.
Recenser les pisciculteurs. Et là, je vous dis, la pisciculture n'est pas une activité traditionnelle en RDC. Vous ne pouvez pas me citer une tribu où ils vont se dire, voilà, nous avons été toujours pisciculteurs. Non, la pisciculture, c'est une activité d'introduction. C'est pour dire que nous essayons. Chacun, dans son coin, il essaye. Parce que il n'est pas encore encadré. Donc, dans la réforme en question, après avoir recensé le potentiel pisciculteur, il faut les former. Vous voyez? Il faut qu'il y ait une formation technique qui fera que les poissons qu'on aura produits soient admis aussi à la consommation.
Oui. Ah, ça c'est très important aussi. Oui.
Parce qu'on peut bien produire les poissons. Mais si les conditions de production de ces poissons-là ne sont pas réunies, eh bien, quelque part, il y aura une structure de contrôle qui va empêcher la consommation de ces poissons-là. Donc, cette structure-là, l'Office national de pêche et d'aquaculture, qui vient de naître, il a du boulot. Il a du boulot, alors du boulot technique, n'est-ce pas, pour implanter son activité sur le terrain. Il va certainement aller des provinces en province, des territoires et même des entités décentralisées. Parce que je vous ai dit au départ que l'eau est partout en RDC et que nous sommes capables de produire des poissons à n'importe quel coin de la République. Parce que nous avons l'eau, nous avons la matière première, c'est-à-dire le maïs, le soya, le sorgho, le tourteau, que nous pouvons composer pour nourrir nos poissons. Vous voyez, il suffit maintenant, quand on aura installé les infrastructures de base, comme je venais de dire, et des infrastructures de conservation, de transformation et de commercialisation. Cette filière-là, quand c'est aligné avec des techniciens bien formés et dévoués, je crois que on mettra la croix sur les importations de poissons.
Ah, s'il faut parler de la pisciculture, est-ce qu'il y a des poissons qui sont qu'on peut élever facilement par rapport à d'autres espèces?
Oui, les poissons que nous avons hérités de la colonie, pour ce qui était de la pisciculture, je disais tout à l'heure que la pisciculture, ce n'est pas une activité traditionnelle,
oui.
C'est d'importation. Les poissons que nous avons hérités, il y en a deux. Hein? Le tilapia, Nilotica, et le Clarias cariopinus.
Là, c'est les tilapias, souvent des gens connaissent, mais l'autre poisson là, c'est.
Le Clarias, c'est l'engolo.
Hein? L'engolo, voilà. D'accord, l'engolo, là c'est plus clair.
Oui, oui. Alors, tandis que les autres poissons hein, peuvent aussi être cultivés. Mais on n'a pas encore eu le temps, on n'a pas encore les moyens pour étudier leur biologie, n'est-ce pas? Leur croissance, connaître tout ce qu'il faut pour qu'on puisse les approvisionner, les apprivoiser. Voyez? Mais on peut les grossir. C'est-à-dire, quand vous prenez des poissons qui sont dans le fleuve, vous les mettez dans les étangs, certainement, certains poissons ne peuvent pas se reproduire parce que l'écologie n'est pas la même.
Oui.
Mais ils se reproduisent, donc ils se multiplient. Enfin, ils croissent, je vous l'ai dit, ils grandissent parce que vous leur donnez de l'aliment. Voyez? Les poissons, pour manger dans la nature, il se nourrit de phytoplancton et des zooplancton. Vous voyez? Les poissons, quand, pour qu'ils mangent, ils marchent. Donc, ils se déplacent la gueule ouverte. Et toute la poussière que vous voyez là, dans le fleuve, tout ça, que nous appelons poussière, mais c'est l'aliment pour les poissons.
Pour les poissons, oui.
Alors, quand il aura accumulé suffisamment de cette poussière-là dans la gueule, ferme la gueule, l'eau sort par les branchies, et la pâte là qui est restée va maintenant dans le tube digestif et il se nourrit. Et voilà, c'est une nutrition aussi aléatoire. S'il n'est pas fort, il ne se nourrit pas correctement aussi. Mais quand vous le mettez dans un coin et que vous lui apportez, en plus de ce qu'il va faire là,
oui.
En plus de ça, de la nutrition naturelle, la fertilisation, vous lui amenez de l'aliment concentré, excentré, alors à ce moment-là, vous accélérez sa capacité de croissance. Vous voyez? Voilà.
Voilà, c'est très intéressant tout cela. On va poursuivre avec vous, docteur oui. Gabriel Kombosi. Je rappelle, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, c'est votre magazine de la vie au quotidien Capi Service. Nous parlons de réformes apportées dans la gouvernance du secteur de la pêche et de l'aquaculture en RDC. Mais notre invité, docteur Gabriel Kombosi, a préféré plutôt qu'on parle de la redynamisation en ce qui concerne la pêche et de l'implantation en ce qui concerne l'aquaculture. Si vous voulez intervenir, je rappelle, vous pouvez le faire nous envoie un message au 099-716-9941 099-716-9941 sur le numéro pour un message vocal. Alors, nous étions en train de parler de cet office national de pêche et d'aquaculture. C'est une très, très bonne nouvelle, mais généralement, c'est ce qui est décrié dans notre pays. Ce sont les moyens qui souvent ne suivent pas. Mmh. Est-ce que... on peut espérer, parce que la pêche, on va pas arrêter de le dire, hein, surtout avec ce qui s'est passé, lorsqu'on a vu le pays importer les poissons de la Namibie. Alors, vous l'avez dit, les cours d'eau, hein, c'est partout qu'on trouve des rivières dans ce pays. Nous avons de cours d'eau partout. Comment faire de manière à ce que le moyen puisse suivre pour que cette implantation, surtout de l'aquaculture, puisse vraiment être se concrétiser, se matérialiser sur le terrain? Parce que là, je me rends compte que on arrive à mieux comprendre l'importance de l'aquaculture par rapport à la pêche. Parce que l'aquaculture, vous avez du poisson, il suffit de mettre tout ce qu'il faut comme mécanisme nécessaire pour vous assurer que des poissons vont être bien élevés et puis ça pourrait être distribué sur le marché. Mais le moyen pour accompagner cet office.
Les moyens, l'État n'a jamais été producteur. Vous voyez?
Oui.
L'État, c'est un encadreur, c'est un impulseur, c'est celui qui donne l'impulsion. Et c'est lui qui garde les normes. L'État doit pouvoir travailler avec les sociétés privées et para-étatiques. Je vous renvoie un peu dans le passé pour ce qui était de la pêche industrielle ici, en RDC. La colonie avait signé des protocoles d'exploitation. Le fleuve Congo débouche sur l'océan. Alors, il y a un protocole, principalement, que la République a signé avec l'Angola. Malheureusement, à l'estuaire, hein, la côte, le littoral que nous avons là-bas, c'est à peine 40 km. Vous voyez? Alors, quand ce protocole avait été mis en marche, il y a eu des bateaux que les Portugais avaient amenés du côté de l'Angola. Les Belges, comme ils visaient plus le gaz ou le pétrole qui était dans ce coin-là, ils n'ont pas tellement développé la pêche aussi. Si bien que, à la dislocation, à l'indépendance, donc à la dissolution de ces contrats-là, les Portugais, avec l'Angola, qui avaient plus de bateaux, de chalutiers, et c'était normal qu'ils s'accaparent de la suite, de la continuité de cette activité-là. Et la RDC restait à marge. Mais, timidement, elle est revenue par la création de PIM, hein, la pêcherie industrielle.
La demande, oui.
Mais qui a connu aussi, comme vous le dites, beaucoup de difficultés pour pouvoir aller de l'avant. C'était une société privée, hein, qui n'a pas été épargnée des pensions, hein, régulières, qui l'a fait qu'aujourd'hui, on n'en parle plus, et c'est parti. De l'autre côté du lac Tanganyika, c'était la même chose. Il y a eu beaucoup de sociétés grecques, n'est-ce pas? Parce que c'était la colonie anglaise avec les Grecs aussi qui sont venus faire la pêche là-bas. Il y a eu plus de 10 sociétés, n'est-ce pas, qui faisaient la pêche semi-industrielle là-bas. Et comme souvent les Congolais, comme j'avais dit au départ, ne voient pas seulement le poisson comme une ressource, n'est-ce pas, qui puisse amener beaucoup de richesses au pays, on est plus allé dans d'autres activités que de la pêche. Et ces 10, je connais bien, oui, ces 10 sociétés-là de semi-industrie ont disparu. Alors, pour revenir à votre question, il suffit aujourd'hui que l'Office national de pêche et d'aquaculture qui est installé puisse ouvrir ses portes à recevoir des investisseurs qui peuvent bien travailler avec lui. Lui-même, il peut avoir quelques bateaux, mais au moins qu'il y ait des privés qui puissent s'ajouter et travailler en régie avec cet office-là pour pouvoir développer, exploiter correctement nos rivières, nos lacs qui sont ici. Je n'ai pas dit que la pêche n'est plus nécessaire.
Est nécessaire, mais c'est plutôt on s'est rendu compte que
il faut redynamiser
ces secteurs-là, voilà. Mais en tout cas n'est pas aussi négliger l'implantation de l'aquaculture qui a monté toute son importance à travers votre expertise.
Tout à fait.
Voilà. Alors on va suivre un auditeur qui est en ligne. C'est Laurent Mignon qui a réagi depuis Kananga. On va suivre Laurent Mignon qui réagit depuis Kananga. J'espère que Jean-Noël, qui est à la technique, va nous balancer cette réaction de Laurent Mignon. Jean-Noël, est-ce qu'on peut suivre Laurent Mignon qui réagit depuis Bukavu, depuis Kananga? Bon, on attend de voir la technique. Ça ne marche pas encore. On va le rappeler plus tard. On me fait signe qu'on va le rappeler plus tard. Laurent Mignon, on vous écoute.
Bonjour, la Radio Capi, c'est Laurent Mignon Lipas à Kananga. Je pense que le thème d'aujourd'hui, c'est une bonne thématique, parler de l'aquaculture. Mais je pense que pour mieux réussir ce secteur, il faudrait que l'État congolais mette le moyen possible à la disposition des acteurs de ce secteur. Mais comment expliquer? Nous avons un réseau hydrographique plus riche, mais nous importons toujours le poisson qui vient de la mer. C'est une honte, c'est une insulte pour un grand pays comme le nôtre. Mais je pense que nous devons avoir des autorités sérieuses, oui. Hein? Mettez-moi les moyens ici, afin de booster ce secteur. Mais ça demande quoi? Mais vous vous rendrez compte aujourd'hui que les poissons se battent pour avoir des dix, pour avoir de l'argent. Mais un secteur très capital, bon, il y a un semblant, il y a un silence mort là. Non, je pense que mettre à la disposition des acteurs de ce secteur serait très mieux pour booster ce secteur. Merci beaucoup, bonne journée.
Bonne journée à Laurent Mignon qui a réagi à Depuis Kananga. Je rappelle à tous ceux qui viennent de se joindre à nous, si vous voulez également intervenir, le numéro pour nous faire un message vocal, c'est 099-716-9941. N'appelez pas, faites seulement un message vocal et puis on va écouter votre réaction.
Le magazine des Nations Unies.
Magazine des Nations Unies. Le magazine des Nations Unies, tout sur les faits saillants des agences du système des Nations Unies. chaque dimanche à 8h30 et en rediffusion à 19h05.
Vous avez suivi Laurent Mignon qui a réagi depuis Kananga, qui est revenu sur ce qu'on a dit au début de cette émission, c'était le secteur négligé, mais vous avez suivi notre invité, docteur Gabriel Kombozi, qu'il y a des efforts en tout cas qui sont entrepris pour redynamiser les secteurs de la pêche et puis l'implantation de l'aquaculture. Comment vous réagissez par rapport à ce que vient de nous dire Laurent Mignon, monsieur, docteur Gabriel Kombozi?
Je suis tout simplement heureux qu'il y a des amis, des frères, des collègues qui suivent aussi l'émission, hein, et qui sont, disons, de la même avis, du même avis que moi. Voyez, aujourd'hui là, il a dit que nous avons toutes les potentialités nécessaires,
oui,
mais nous n'en faisons rien avec. Donc, il pose la question de savoir pourquoi est-ce que les autorités ne peuvent pas prendre en compte cette activité-là. Et je disais ici que il y a des signaux. Qui sont déjà en train de se faire sortir du néant. Hein? Nous avons été beaucoup trop longtemps négligés dans les secteurs, mais aujourd'hui, il y a des signes qui ne trompent pas. Le fait de pouvoir réglementer la pêche, le fait de créer un office propre à la pêche et à l'aquaculture, le fait de pouvoir acheter des bateaux de pêche, hein? Et je crois que ce n'est pas une mince affaire, mais c'était maintenant à nous, n'est-ce pas? Et les techniciens, et les amis qui seront autour de cet office-là, de pouvoir canaliser les activités, canaliser, les matérialiser dans l'idée, hein, qui est sortie du ministère. Vous voyez? Je disais ici, pour répondre peut-être à notre ami de Kananga, qui dit qu'il y a beaucoup de gens qui attendent du ministère. Mais quand aujourd'hui le ministère arrive à mettre sur pied, comme il a fait pour ce qui est de l'office, la création de l'office, si on arrive à mettre sur pied deux structures, je parle bien de deux structures importantes, l'écloserie et la provenderie, vous verrez que les restes, en tout cas 60% d'opérateurs piscicoles seront satisfaits. Parce que quand vous allez dans notre, dans l'Itéland de Kinshasa, où on pratique de la pêche, disons de l'aquaculture en terre battue. Vous posez la question, quels sont vos problèmes ici? Ce sont les deux problèmes là.
Et c'est un peu d'expliquer encore c'est quoi l'écloserie et la provenderie, pour aider les gens à comprendre pourquoi c'est deux structures très importantes.
Oui, l'écloserie, c'est comme la maternité des poissons. On les fabrique maintenant au laboratoire, n'est-ce pas, pour accélérer la production. Je prends par exemple à la nature. Dans la nature, un poisson femelle, il peut pondre 7 à 8 000 œufs par cycle de production. Vous voyez? Alors, quand vous prenez un poisson-là, vous le mettez avec ses œufs dans la nature, il y a des prédateurs, il y a toutes sortes de stimuli qui font en sorte que le taux de survie, de ces œufs-là, ou de ces poissons, est tellement faible qu'on peut arriver, sur les 7000 ou 8000, n'avoir que 2000 poissons qui ont survécu aux intempéries. Parce que dans la nature, il y a des poissons carnassiers, il y a beaucoup de tracts là-bas. Tandis que quand vous prenez une femelle de clarias, par exemple, d'engolo, non, vous faites la reproduction dans un laboratoire où il peut produire à lui seul, hein, ce que j'ai dit là, 8 000 ou 10 000 alevins. Et qui vous en avez 4 ou 5, 10 femelles comme ça, vous suivez au laboratoire, vous suivez les conditions de croissance depuis l'étape juvénile jusqu'au fingerling. Voyez? Et là, il y a moyen de voir un taux de survie un peu plus élevé que si on le faisait dans la nature. C'est ainsi que les deux structures sont importantes quand on produit des milliards de poissons, des alevins par mois dans un laboratoire, n'est-ce pas? On peut servir, je crois, des centaines de pisciculteurs. Et les milliards de poissons, les petits alevins qu'on a construits, qu'on a fait produire dans les laboratoires, et qu'on a 5 milliards qui ont survécu, n'est-ce pas, par rapport à des millions qui pourront peut-être survivre dans l'eau, oui, dans la nature, vous voyez la différence. Donc, il y a une croissance, une production intensive au niveau de la pisciculture aujourd'hui, que d'atteindre naturellement la reproduction au niveau de nos fleuves, de nos lacs. Voilà.
Alors, vous avez parlé de quelque chose qui, à un moment, a été aussi négligé, mais maintenant, on est en train d'essayer de redynamiser, c'est-à-dire par rapport avec la réglementation pour ce qui est de l'ouverture et de la fermeture de la pêche. Et vous avez également parlé de filets. J'aimerais que les gens sachent quand même pourquoi c'est important cette réglementation. C'est-à-dire que quels sont les avantages d'avoir des périodes d'ouverture, de fermeture de la pêche, et quels sont les avantages d'utiliser les filets recommandés pour la pêche.
Bon, alors là, vous me renvoyez à vous dire exactement ceci.
Oui.
La pêche aujourd'hui, c'est tenue par le paysan.
Oui.
C'est de la pêche traditionnelle, n'est-ce pas? Nous devons réguler cette pêche-là parce que beaucoup n'ont pas les, disons, les notions nécessaires pour pouvoir respecter ce que nous sommes en train de dire ici.
Oui.
On ferme la pêche à la période indiquée quand on sait que c'est cette période-là qui est nécessaire aux poissons de se produire. On ferme justement pour donner l'occasion aux poissons de donner des petits alevins. Et cette fermeture va parfois de 3 à 6 à 8 mois par rapport au lieu, au site ou au plan d'eau nécessaire, parce qu'il y a des études écologiques, biologiques qui doivent être menées au préalable. On ne ferme pas pour le plaisir de fermer. On sait qu'à telle période, il y a tel type de poissons qui sont en reproduction. On ferme de ce côté-là. N'est-ce pas? Alors, la fermeture donne l'occasion aux poissons de se reproduire.
Alors, quand on ferme dans un côté, on permet aux pêcheurs d'aller pêcher de notre côté où il s'est permis ou bien c'est...
Il y en a qui font la mutation, la transhumance.
Oui.
Mais il y en a qui sont restés là-bas chez eux. C'est pourquoi d'ailleurs la pisciculture est là comme une pièce de réchange.
Exactement.
Pendant qu'on aura fermé la pêche, le même pêcheur peut se convertir au pisciculteur. Vous voyez? Et d'ailleurs, si on fait des petits calculs, s'il a une cage flottante de 30 mètres cubes et qui lui produit, mettons, 2 tonnes ou 3 tonnes par an, si nous faisons de petits calculs, l'année à 360 jours, vous divisez les 3 tonnes ou les 3000 kilos par le nombre de jours, vous trouvez le nombre de poissons qu'il faut par jour. Et très souvent, en tout cas, les pêcheurs, quand ils vont là-bas, ils rentrent réduits, alors que s'ils faisaient ça, ces jours-là sont comptabilisé et il n'aura pas de perte à faire. Vous voyez? Alors, après la description de ce qui était, comme vous l'avez posé la question, de l'éclosurie,
oui.
J'ai dit ici que c'est une sorte de maternité, comme les poissons, ils ont les frayères.
Les zones de frayères, oui.
Les zones de frayères dans l'eau, dans la nature, mais l'éclosurie, c'est l'intensification de la zone de frayères au niveau du laboratoire. Vous voyez? Bon, maintenant, la provenderie. C'est clair, le poisson, il se nourrit seul, n'est-ce pas? Plus il est fort, il se déplace pour avoir de l'aliment. Mais quand vous avez produit l'aliment dans un laboratoire, dans une usine de production d'aliments, parce qu'on sait que le poisson a besoin de protéines, a besoin de lipides, a besoin de l'azote, a besoin de beaucoup d'éléments que vous pouvez composer pour faire cet aliment-là et vous lui donner dans un coin où il ne peut pas se déranger, tu ne peux pas chercher beaucoup à se déplacer. Vous comprenez? C'est ça l'avantage qu'il y a de faire la pisciculture, parce que vous contrôlez vous-même votre production. Je m'amusais souvent à dire à un ami, à un frère, vous dites, vous êtes papa, moi je suis papa aussi, deux gendres nous arrivent le même soir. Bon, moi je dis à ma femme, moi je suis pisciculteur, prépare déjà les foufous, moi je vais à l'étang là-bas, je diminue l'eau, je prends mon épuisette, je peux prendre 5 poissons. Je reviens dans une heure ou deux.
Et vous êtes pêcheur?
Et l'autre, le pêcheur, il prend sa pirogue avec son filet. Il va dans le fleuve. Mais c'était aléatoire. On ne sait pas s'il faut réellement attraper des poissons. Alors, les mailles.
Ouais, tout à fait. Ça, c'est important aussi. Parce que pourquoi il faut utiliser...
Il faut utiliser justement les mailles parce qu'il y a des poissons, des qualités de poissons que nous devons protéger. Vous voyez? Il y a des poissons qui, vous le voyez, petits, mais c'est sa taille normale. les Sambasa, par exemple, Sambasa, à Bukavu, les Frétins.
Oui.
Vous pouvez tout donner, il ne saura pas aller au-delà de cette taille-là que nous voyons. Tandis qu'il y a d'autres poissons, n'est-ce pas? Quand vous les mettez dans l'eau, il peut aller vous donner même 5 kilos de viande. Alors, les mailles sont justement justifiées pour donner l'occasion à ces poissons-là d'aller jusqu'à la taille finale. Quand on ouvre la pêche, on réglemente la pêche, on dit, bon, vous ne pouvez pas aller en deçà de 3 mètres, de 3 centimètres, par exemple. C'est pour donner l'occasion aux pêcheurs, disons, aux poissons qui sont encore petits, de traverser le filet, ne pas être pris par le filet qui a 3 centimètres de maille, alors que le poisson qui a déjà une taille un peu plus grosse par rapport à cette, il s'est fait attraper.
Voilà, ça c'est bien clair. On va écouter cet auditeur qui a réagi qui a réagi à ce numéro, les zones 9706-9941. On va l'écouter.
Ok, bonjour la radio Capi. Je salue aussi notre invité docteur Gabriel Kombozi. Ma préoccupation est celle-ci. Je voulais un peu savoir parce que j'ai entendu quelque part le docteur a dit que d'un projet d'achat des bateaux. Moi, je trouve que ils sont en train de sauter les étapes parce qu'il y a déjà une problématique. Moi, les prix des poissons dans nos différents marchés, c'est trop cher par rapport aux poissons qui viennent ailleurs. Les chinchards, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qui cause ce problème? Est-ce qu'il y a cara et il y a. Qu'est-ce qui cause le problème pour que les prix des poissons que nous pêchons ici, nous avons les fleuves et il y a des rivières. Alors, qu'est-ce qui cause un peu cette différence-là? D'aider en commençant directement à acheter les poissons, moi je trouve qu'ils sont tentés de sauter les étapes. Pourquoi? Ils devaient d'abord commencer par faire l'étude de stockage des poissons dans nos rivières, dans le fleuve Congo. À travers cette étude de stockage, ça peut nous donner l'idée maintenant d'écrire, soit de demander au gouvernement d'acheter les bateaux, directement acheter les bateaux, sans pourtant connaître ou faire l'étude de stockage des poissons, qui prendra même ne fût-ce qu'une année. Pendant 12 mois, on évolue. Est-ce que dans quelle saison où les poissons sont en train de se reproduire, il y a la reproduction des poissons, dans quel moment il y a la croissance des poissons, pour connaître un peu les différents taux de quoi, des croissances ainsi que des reproductions des poissons. Moi, je trouve qu'en achetant directement les bâtons, ils sont tentés de sauter les différentes étapes. Merci beaucoup.
Voilà, merci à vous, docteur Gabriel Kombozi, si vous voulez réagir.
Oui, la réaction, je la prendrai de nouveau. Je prends d'abord la cherté des poissons fleuve. Cette cherté répond seulement au principe de la demande, hein, et des prix. Vous comprenez? L'offre et la demande. On produit très peu, mais il y a une très grande demande sur cette petite provision. Qu'est-ce que vous voulez? Le producteur, il va certainement hausser les prix. Les poissons naturels, les poissons que nous pêchons dans le fleuve, tout ça, ils sont de très petites quantités. Et la demande, la consommation est très grande. C'est tout à fait normal que ces poissons-là coûtent plus cher. C'est pourquoi d'ailleurs, tout ce que nous sommes en train de parler ici, la réforme et la redynamisation. Il faut redynamiser la pêche pour pouvoir augmenter la production. Alors, je prends la question qui a trait au bateau. Non, dans un projet, n'est-ce pas? Il y a des projets principaux, il y a des idées principales, il y a des idées connexes aussi, qu'on met dans tout projet pour pouvoir faire un projet bancable. Les études pour pouvoir acheter le bateau, il ne faut pas le prendre comme si on allait, dans un étalage, on dit, je choisis tel bateau. Les bateaux ne se vendent pas comme ça. Ça se commande sur les conditions que vous voulez utiliser. Le ministère a fait effectivement des études très sérieuses pour pouvoir déterminer quel type de bateau il faut et à quel moyen nous pouvons l'avoir. Vous voyez? Et pendant que nous sommes en train d'attendre, parce que ces bateaux-là ne sont pas dans un magasin où on peut aller donner de l'argent et l'emmener directement, ce sont des commandes qu'on a faites et les bateaux sont en construction, selon les besoins réels de l'utilisation sur le terrain. Il a parlé que nous sommes allés trop vite en besogne. Non, pour pouvoir construire le bateau, ça prend du temps. Mais au même moment, nous sommes en train de signer des contrats aussi pour des amis ou des investisseurs qui viendront nous aider dans cet ensemble de productions. Parce qu'il faut que nous connaissions effectivement ce qui existe encore de la masse, la biomasse ichtyologique que nous avons ici aujourd'hui. Parce que on empêche que aujourd'hui nous puissions avoir des statistiques qui ne sont pas fiables parce que nous ne savons pas exactement qu'est-ce que nous avons tiré de ces 700 tonnes de poissons que nous avons toujours entendu parler et qu'est-ce qu'il en reste. Certainement, apaisez-vous, chers auditeurs, il y a des études qui se font et il y a des contrats qu'on va signer
oui.
pour pouvoir avoir des amis, des scientifiques qui pourront nous aider à avoir ces idées.
Voilà, dans une minute, rapidement, il répond à cette question. Victor Ndouz qui nous écrit depuis Mbanzangongo. L'aquaculture a redynamisé, ok, mais qu'est-ce qui est prévu pour la formation des différents acteurs à la base? Est-ce que nos écoles vétérinaires, avez-vous réformé le programme pour nos élèves étudiants? Rapidement, en une minute, oui.
Oui, en une minute, je dirais tout simplement qu'il y a carence de techniciens sur le terrain. Parce que, tout simplement, l'activité n'a jamais été considérée comme une activité productrice de richesse. Maintenant que nous sommes en train de nous réveiller, évidemment, il faut qu'on se réveille avec tout.
Il faut qu'on se réveille avec tout. Voilà. On va s'arrêter par là. On espère vous retrouver, en tout cas, pour poursuivre sur ces sujets de la gouvernance des secteurs de la pêche et de l'aquaculture en RDC. Merci beaucoup, docteur Gabriel Kombosi. Je rappelle que vous êtes directeur de la direction de la pêche et de l'aquaculture au ministère de la pêche et de l'élevage. Merci d'avoir été de notre. On espère vous retrouver prochainement.
Le plaisir est partagé.
Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à ce numéro du magazine Okapi Servi de ce jour. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à Jean-Noël Mokondo qui a remplacé Dieudonné Niangas à la mise en onde. Merci à Tatima Poukou qui l'a réalisé et coordonné à la présentation. C'était Marcel Ngomambala sous la supervision de Jean-Marc Mataki. Au plaisir de vous retrouver prochainement dans un autre numéro de votre magazine de la vie au quotidien Okapi Servi. D'ici là, bon suivi de programme sur la fréquence de la paix. Au revoir à toutes et à tous.